Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Vous savez, je fais un travail formidable. D'abord parce que, je lis des livres, c'est une de mes passions. Et puis aussi, je fais de la radio et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Maintenant, ça va faire bientôt 20 ans. Et puis aussi, j'ai la chance de pouvoir discuter, rencontrer les auteurs dont je lis les ouvrages. Et ça, c'est une belle récompense. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une belle journée parce que je vais pouvoir discuter, vous faire partager ce moment de bonheur. Voilà, c'est ces moments rares de parler avec l'un des auteurs que j'apprécie, dont j'ai lu plusieurs ouvrages et je suis sûre que vous aussi. Il nous entraîne aujourd'hui dans une histoire haletante, passionnante, où il y a toujours sa part de psychologie, de philosophie. C'est une chose qui lui est attachée, qui lui est propre et qui le rend fort séduisant. Bonjour Laurent Gounelle.
Bonjour Claudine.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour Délivrez-vous pour ces deux ailes, pour votre dernier ouvrage et Intuition aux éditions Kalman Lévy. Alors, on ne vous présente plus, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, celui-là c'est le dernier. Alors, il y a le personnage, et bien sûr c'est Timothy Fisher, il a son chien Al Capone, c'est un auteur qui a une vie tranquille, banale, dans le Queens.
Oui.
Et il va lui arriver un truc absolument incroyable, c'est que deux agents du FBI vont arriver chez lui. Toc toc, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez nous aider dans notre enquête? Au début, il prend ça pas très sérieusement, notre ami Timothy.
Tout à fait, il croit que c'est une plaisanterie. Donc il leur dit, vous savez, mais je ne suis qu'un auteur de polar. Voilà, je vois pas en quoi je peux vous aider dans votre métier.
Ouais.
Et les autres restent au début un peu mystérieux. Enfin, ils lui demandent de les suivre. Et puis, bon, il va y aller. En fait, il comprend, il découvre qu'on lui propose de rejoindre un programme secret qui, entre parenthèses, existe véritablement. Je ferme la parenthèse.
Oui. J'allais vous poser la question. Oui.
Qui vise, en fait, à développer l'accès à l'intuition.
Mm-hmm.
Et donc, ils expliquent à ce jeune auteur qu'ils ont repéré qu'il était naturellement intuitif et que donc, ça allait aller très vite avec lui. L'idée est de le former à cette méthode afin qu'il puisse ensuite les aider à identifier le criminel le plus recherché du pays.
Mmh, d'accord. Donc il va s'embarquer dans ce programme. Il y a ce chien Al Capone et puis il y a aussi tout l'univers de New York, du Queens, cette ville personnellement que je trouve fascinante, bien évidemment. Et puis dès qu'on entend parler de FBI, ça nous fait penser aux séries. Voilà, il y a toute une majesté dans la mise en scène. Moi, je dis toujours que dans vos livres, vous êtes le roi de la mise en scène, de cette majesté du petit détail. Vous nous trimballez, vous nous emmenez. C'est un don chez vous, Laurent Gounelle?
C'est gentil. Non, c'est juste du travail. Vous savez. C'est juste du travail. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai plaisir à plonger le lecteur, comme vous le dites, dans un univers, dans une atmosphère.
Ouais.
Et donc, j'ai envie qu'il voit, qu'il ait des images à l'esprit, qu'il ait des sons à l'esprit, éventuellement des odeurs, enfin, oui, qu'il soit imprégné de l'atmosphère du lieu dans lequel se déroule telle ou telle scène.
Mmh. Alors, la psychologie et la philosophie des gens, des événements, vous êtes toujours dans ce mouvement-là et Intuition ne déroge pas à la règle. Je dirais même qu'à la limite, ça s'est renforcé parce que, comme vous le disiez, ce programme fait appel aux intuitifs. Comment décririez-vous l'intuition? C'est un don, un septième, un huitième, un neuvième somme. Comment l'approchez-vous, ça?
D'accord. Alors d'abord, au début, je dis au début, c'est jusqu'à il y a encore 6 ans.
Oui.
Même si je pouvais parler de mon intuition, dire oui j'ai de l'intuition, etc. En fait, j'y croyais pas forcément au fond de moi. C'est-à-dire, vous voyez, il m'était arrivé, comme tout le monde, de penser par exemple à un ami, et puis soudain le téléphone sonne.
Mm-hmm.
Et c'est lui qui est au bout du fil, même si c'est quelqu'un que j'ai pas eu au téléphone depuis longtemps, et je me dis, c'est une intuition. Mais en fait, au fond de moi, je me disais, non, c'est juste le hasard, c'est juste une coïncidence, quoi. Mais il s'est passé un événement qui a tout chamboulé, en fait, dans ma tête, il y a 6 ans. C'était en mars 2015, et je donnais une conférence à Paris. Et à l'issue de la conférence, il y a un inconnu qui vient me trouver.
Mmh.
Il vient me voir, et il me fait une proposition étrange, qui ressemble un peu à celle, d'ailleurs, des agents du FBI dans le roman. Et il me dit, je propose de vous former à une méthode qui s'appelle le remote viewing. Alors, j'en avais entendu parler, j'avais lu un article dessus.
Mm-hmm.
Je savais que c'était une méthode qui avait été développée par les Américains pendant la guerre froide, mais j'en savais pas beaucoup plus.
Mm-hmm.
Et il me dit, voilà, je propose de vous former pendant 3 jours en tête-à-tête à cette méthode. Bon, alors c'était à la fois assez attirant, parce que moi je suis curieux de nature.
Ouais.
En même temps, c'est un homme que je voyais pour la première fois de ma vie, donc je me dis, bon, avant d'accepter de passer 3 jours avec lui, faut quand même que je sache ce qu'il peut éventuellement avoir derrière la tête. Donc voilà, j'hésite un petit peu.
Mm-hmm.
Bref, au bout du compte, il revient vers moi 3 mois plus tard et je finis par accepter.
Mm-hmm.
Et donc je me retrouve en effet avec lui dans une salle que j'avais louée. Il me forme à cette méthode qui est assez incroyable. En fait, il m'explique donc tout a démarré aux États-Unis dans les années 70.
Ouais.
C'était un chercheur qui s'appelle Harold Puthoff, qui est toujours en vie d'ailleurs,
mm-hmm.
qui était un chercheur de l'université de Stanford, donc une prestigieuse université en Californie.
Mm-hmm.
Il était dans une émanation de cette université qui s'appelle le SRI, c'est un labo qui s'appelle le Stanford Research Institute. Et ce scientifique s'était intéressé à un artiste qui s'appelle Ingo Swann.
Mmh.
Pourquoi ? Parce que Ingo Swann était doué d'intuition. Quand on dit qu'il était doué d'intuition, en fait, il avait cette faculté assez extraordinaire d'être capable de décrire assez précisément un objet qu'on lui cachait dans la pièce à côté.
Mmh.
Ça fascinait Harold Puthoff, et il a décidé de creuser la question, d'essayer de comprendre comment il faisait, et même il s'est mis en tête de développer une méthode pour pouvoir acquérir ce don, acquérir cette capacité,
oui.
et même la transmettre à d'autres. Alors au début, il a eu du mal à réunir des budgets parce que c'est dans le cadre de l'université, que ça touchait évidemment au paranormal et que c'est pas pour rassurer les universitaires. Mais il a quand même réussi d'année en année à rassembler des budgets et à avancer. Et puis il a fini par obtenir des résultats qui étaient quand même assez probants.
Oui.
Au tel point qu'un jour, on sonne à sa porte, ce ne sont pas des agences du FBI en l'occurrence, mais de la CIA, vraiment.
Hein. c'est pas mal non plus.
Dans un film, non,
incroyable.
De la CIA qui lui dit, écoutez, voilà, on s'est intéressé à vos travaux, ça nous intéresse.
Ouais.
On vous propose de les poursuivre dans le cadre de la CIA et on vous les finance. Donc pour Puthoff, l'occasion était trop belle, lui qui ramait chaque année pour boucler ses budgets, donc il accepte. Il accepte et à partir de là, en fait, on déménage le labo, on l'installe sur un site militaire près de Washington, à Fort Meade.
Oui.
Et chaque année, pendant des décennies, le Congrès américain va voter des budgets de plusieurs millions de dollars sur ce projet.
Incroyable.
Projet secret.
Incroyable.
Il est classé secret défense, hein, on est pendant la guerre froide.
Bien sûr.
Et l'objectif pour les Américains, c'est en fait, il est double. Déjà, ils ne voulaient pas se laisser distancer par les Soviétiques parce qu'ils savaient que les Russes investissaient une fortune dans un programme similaire.
Oui.
Et puis aussi, ils avaient l'espoir de pouvoir découvrir des cibles secrètes stratégiques, hein,
mm-hmm.
Ou encore même d'anticiper des attaques intuitivement.
Incroyable.
Ce qui est incroyable et qui, moi, me semblait pas très raisonnable, pas très rationnel quand on m'a parlé de tout ça.
Oui.
Mais en même temps, voilà, je me suis formé à la méthode et je me suis prêté au jeu. Donc, j'ai déroulé ça. Vous voulez que je vous raconte ma première séance?
Ah bah oui, je veux bien. Oui, je suis sûre que ça va intéresser les auditeurs. C'est parallèle au livre, hein, de toute façon, donc pas de problème, au contraire.
Bah oui, parce que en fait, voilà, dans le roman, évidemment, je dévoile la méthode.
Vous dévoilez la méthode, et en plus, il y a une thématique, c'est-à-dire que donc il y a l'histoire. Alors, c'est comme un thriller et un polar. J'en discutais il y a quelques jours avec Bernard Minier. Un thriller et un polar, on peut pas rentrer au cœur de la chose. On tourne autour, hein, bien évidemment, mais il y a des scènes assez intéressantes. Mais en même temps, on sent chez vous ce besoin, mais vous nous forcez à chercher au fond de nous ce pouvoir qu'est l'intuition, donc finalement aussi. Hein.
Oui, complètement. Je vais quand même vous raconter la première expérience, mais le but, en effet, au-delà de la méthode, c'est d'inviter chaque lecteur à découvrir qu'il a de l'intuition. Tout le monde a de l'intuition.
Mm-hmm.
D'accord ? Certains y ont accès plus facilement que d'autres, mais ça se travaille, ça se cultive, et tout le monde en a. Et l'intuition, c'est quoi ? D'ailleurs, j'ai pas répondu à votre précédente question.
Mm-hmm.
Vous me demandez de définir l'intuition.
Oui.
L'intuition, c'est une capacité qu'on a tous d'accéder à l'information,
mm-hmm.
une information qui n'est pas directement accessible par nos 5 sens. Parce qu'habituellement, c'est par nos sens que l'information
arrive
à nous, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on peut toucher.
Tout à fait,
etc.
Oui, ce que l'on goûte, oui.
Voilà, exactement, ce que l'on goûte, au besoin, c'est une information comme une autre. Et là, par l'intuition, en fait, l'information monte à nous, ça surgit dans notre esprit.
Mm-hmm.
Ça surgit dans notre esprit, d'ailleurs, c'est pas tout à fait exact, puisque ça passe par notre corps,
mm-hmm.
mais on le sent pas forcément, mais ce sont les micro-mouvements du corps. l'information surgit à nous, elle vient à nous comme ça. Alors, c'est assez étonnant, on peut avoir du mal à y croire, et pourtant chacun a cette capacité. Mm-hmm. Je peux vous raconter en effet de la première séance. Mm-hmm. Donc, cet inconnu qui s'appelle en fait Alexis Champion, qui est le plus grand spécialiste européen de l'intuition et qui s'est formé auprès de ces Américains. Ouais. Et bien, donc il me dit, vous allez devoir décrire un lieu auquel je pense, dont j'ai caché la photo dans une enveloppe opaque, une enveloppe craft, enveloppe qu'il pose devant moi sur la table. Là encore, je me dis, mais c'est juste impossible, quoi, dans la mesure où je n'ai pas accès visuellement à ce lieu qui est en photo et j'ai absolument aucun indice, je peux pas le faire. Mais bon, une fois de plus, je me prête au jeu et donc je déroule la méthode. Alors c'est assez long, hein, ça dure une demi-heure, trois quarts d'heure. Mm-hmm. C'est basé notamment sur l'étude de mouvement automatique de la main. En fait, on a une feuille de papier blanc devant nous et on laisse partir la main en écriture automatique, mais pas en écriture, c'est un dessin automatique. Mm-hmm. En fait, concrètement, on fait un gribouillis. Hein. Je faisais des choses qui ressemblaient vraiment à rien, sauf qu'on apprend ensuite à décoder ces gribouillis. Alors, au début, ça semble très bizarre. Hein. Par exemple, on vous dit, voilà, s'il y a une sinusoïde, ça signifie qu'il y a une présence d'eau dans le lieu. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Moi, j'y croyais pas trop, mais je l'ai fait, une fois de plus. Ouais. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a des images, pas des images, donc plus précisément, il y a des formes assez abstraites qui commencent à venir, à émerger comme ça. Il y a des, je me mets à voir des couleurs. Au début, ça ressemble vraiment à rien. Petit à petit, ça se précise. Mais quand je dis ça se précise, en fait, ça reste quand même assez, c'est à la fois assez vague, dans la mesure où ça ressemble pas à un lieu précis, d'accord? Et en même temps, c'est précis en termes de sensations et de perception sensorielle. Par exemple, moi, je voyais, pour ce premier lieu, je voyais des lignes horizontales parallèles, je voyais des formes rondes multiples, je voyais que c'était mouillé vers le bas, puis lumineux vers le fond. Donc, oui, c'est très précis, hein. C'est pas une description qui peut s'appliquer à n'importe quel lieu, mais en même temps, ça me disait pas quel était le lieu.
Oui, tout à fait.
D'accord, donc c'était un peu frustrant. Donc voilà, ça c'était mon résumé au bout de trois quarts d'heure de travail. Là-dessus, il ouvre l'enveloppe et il en sort quoi? Il en sort la photo d'une cave d'affinage de fromage. Alors c'était assez troublant parce qu'il y avait devant moi donc, cette photo de grands fromages ronds posés sur des étagères parallèles. Et puis il y avait une flaque d'eau au sol dans cette cave et il y avait une petite lucarne qui diffusait de la lumière dans le fond. Et donc finalement, je découvre que mon résumé est une description assez parfaite de ce lieu que je n'avais pas visualisé en tant que tel. Et donc là, c'était très troublant. Je me suis mis un peu à trembler parce que ça chamboulait complètement ma vision des choses. Parce que ça voulait dire que mon esprit avait été capable finalement de capter des informations qui n'étaient pas perceptibles à l'œil nu.
Mais alors, moi, j'assimile parfois aussi l'intuition à la prescience. Et c'est quelque chose qui m'arrive assez fréquemment. C'est-à-dire que ces derniers mois, depuis le confinement, depuis la pandémie, tout ce que j'ai ressenti, d'une façon générale, est arrivé.
D'accord. Alors, pour moi, c'est l'intuition.
C'est une intuition, oui, propre. Oui, prescience ou intuition, je pense que c'est assez proche. Hein. C'est assez proche, je trouve.
Pour moi, tout ça, c'est apparenté.
Oui, oui.
Je peux vous raconter plusieurs anecdotes. Il y en a une, par exemple, en octobre ou novembre 2019, mon éditeur, Philippe Robinet, le patron de Calman Levy, m'appelle et il me dit est-ce que tu crois que ton livre sera prêt pour une publication en octobre 2020 ? Je lui dis oui, tout à fait, il sera prêt, c'est OK. Et j'avais à peine dit ça que j'ai ressenti quelque chose de très, très lourd, très, très négatif dans mon ventre. Non, mais vraiment, je me sentais mal.
Oui.
Et je lui dis, écoute, Philippe, je ne me demande pas pourquoi, mais je ne le sens pas, en fait. Il ne faut pas le publier en octobre 2020, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi.
Ah ouais.
Mais je me sens mal à cette idée. Il me répond, écoute, c'est un peu bizarre, mais bon, si tu ne le sens pas, je ne vais pas te forcer.
Donc, Laurent, il faut arrêter de fumer.
Hein. Je n'avais rien fumé de ma vie. Donc, il me dit, écoute, on va décaler, tu veux le publier quand, ce livre? Je lui dis, écoute, décalons-le de quelques mois, on va le publier au printemps 2021. Ouais. ça qu'on a choisi la date. Mmh. Un mois plus tard, le Covid apparaissait sur Terre. Ouais. Et en octobre 2020, donc à la date que lui avait considérée pour la publication de ce livre, ouais. Eh bien, comme vous le savez, toutes les librairies de France étaient fermées. C'était le deuxième confinement. Voilà. Et donc, j'avais pas su cela. J'avais pas su qu'il y aurait une épidémie. J'avais pas su. Ça aurait pu être, je sais pas, une catastrophe climatique.
Oui, mais il y a quelque chose.
Les gens qui bloquent la France.
Mais oui, mais il y avait quelque chose qui vous, voilà. qui était venu dans votre esprit pour exprimer certains malaises. Oui.
Ouais. Exactement.
Ouais. Bah, pour en finir avec nos anecdotes personnelles, nous avons fait un voyage en février 2020 et j'ai dit à mon mari et à mes amis, il faut faire ce voyage, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on y aille, ça fait un moment qu'on en parle, il faut le faire. On l'a fait, on est rentré le 1er mars et voilà, mais on l'a fait. Mais pour moi, c'était impératif. Je savais qu'on ne pourrait pas repartir tout de suite. Voilà, c'est quelqu'un.
C'est l'intuition.
L'intuition, oui.
Et chacun a ça, mais comme on ne le sait pas, en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas ou on n'y croit pas, ce qui était marqué autrefois. Mmh. Et du coup, on ferme le tuyau, vous voyez, on ferme le canal. Oui. C'est comme si on empêchait les intuitions de remonter en nous. Oui. Et c'est dommage parce qu'on se prive d'une source merveilleuse d'informations qui peut nous aider à prendre beaucoup de décisions notre vie. Oui. Et finalement, je crois que quand on prend un peu de recul, on se rend compte que les meilleures décisions qu'on a prises dans la vie, c'est pas en réfléchissant, en venant d'une analyse de critères, de je ne sais quoi, c'est plutôt en écoutant ce qu'on a en nous, en fait, au fond de nous, et au fond de nous, on a des réponses.
Tout à fait. Alors, votre héros, effectivement, on le disait, va être embarqué dans ce programme, on le précise donc, qui existe. Voilà, ce programme qui fait appel aux intuitifs. Alors, on va tourner autour des choses, parce que, comme on le disait, dans un polar et un thriller, si on dit les choses, c'est plus la peine. Voilà. Et donc, ça va quand même pas mal les aider. Alors, il y a une scène, moi, qui m'a... j'ai l'impression d'une quatrième dimension. Alors, il y a un personnage avec la terrasse d'un café, et puis au loin, on voit des explosions, il y a le feu, on entend le bruit des sirènes, etc. J'avais l'impression que c'était d'une quatrième dimension. Un mouvement, il y avait quelque chose de statique, et puis en face, il y avait un mouvement. Je ne sais pas comment expliquer, ça m'a fait bizarre. Je voyais la chose, et je me suis dit, mais pourquoi rien ne se passe, et en même temps on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait bouger, enfin c'est quelque chose que vous avez vécu, que vous avez ressenti, c'était pour cette scène là pour ce moment là
En fait, vous savez, les scènes viennent par ce qu'on appelle l'inspiration chez les écrivains. Et en fait, l'inspiration, c'est quoi? Moi, je crois aujourd'hui que l'inspiration, c'est rien d'autre que de l'intuition, c'est une perception de quelque chose. Mais ce quelque chose n'appartient pas à l'écrivain. Mmh. Et en fait, ça, il faut le comprendre. En fait, c'est pas bon pour notre ego, hein, parce que évidemment, chacun serait très fier de se dire je suis absolument l'auteur, le créateur de toute cette histoire, etc. Et en fait, Claudine, je vais vous faire un aveu. Je pense que non. Je pense que mon rôle en tant qu'auteur, c'est quelque part de capter des choses, mais je sais pas d'où d'ailleurs. Mmh. Et je peux vous raconter d'ailleurs deux anecdotes par rapport à ça qui illustrent bien ce phénomène. Ça concerne mon précédent livre. Qui s'appelait Je te promets la liberté,
oui.
C'est une histoire qui se passe sur un bateau. Quand toute l'histoire se passe sur un bateau, et dès le début, l'héroïne, me traverse l'esprit l'idée qu'elle est originaire de Djibouti. Mm-hmm. D'accord. Sauf que le roman se passe à Lyon, donc en France. Il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas française. D'accord. Oui. Mais ça m'avait traversé l'esprit et j'ai appris à accueillir ce qui vient. Je me dis, bon, bah, c'est ok, voilà, elle est djiboutienne. Et puis, je travaille sur le livre, et puis au bout de 5 mois, 6 mois, à un moment donné, je me dis, mais quand même, pourquoi Djibouti, ça rime à quoi? Et j'ai l'idée d'aller chercher sur Google l'origine étymologique de Djibouti.
Oui.
Et j'apprends que ça signifie, est-ce que le bateau est arrivé? Toute mon histoire se passe sur un bateau. Vous voyez, c'est pas sorti de mon cerveau, c'est pas le fruit de ma réflexion, de ma concentration. À un moment donné, c'est venu comme ça et j'ai accueilli ça. Et j'ai une autre anecdote concernant ce même livre qui, une fois de plus, se passe sur un bateau. Il se trouve que je suis très copain avec Bernard Werber, donc comme chacun sait, un autre écrivain.
Oui.
Donc on se voit régulièrement, on parle de tas de choses.
Que je lis aussi.
Ouais. On parle de tas de choses, mais on parle jamais des livres qu'on est en train d'écrire. D'ailleurs, moi je suis très secret par rapport à ça. Mon épouse qui est au courant et encore pas de tout.
D'accord.
Et donc, je vous certifie que je n'ai rien dit à Bernard concernant ce livre que j'étais en train d'écrire quand on s'est vu. Sauf qu'il trouve que ce livre paraît en octobre 2018, début octobre, quelques jours après que paraît l'un de ses livres qui s'intitule La boîte de Pandore. apparition, on s'offre nos livres mutuellement. Je me plonge dans la lecture du sien, et là, je tombe sur les fesses. Pourquoi ? Parce que mon histoire, je vous l'ai dit, se passe à bord d'un bateau.
Oui.
Son histoire se passe à bord d'un bateau.
Ah ouais.
Mon bateau porte un nom mythologique, le Pygmalion.
Le Pygmalion.
Mon bateau porte un nom mythologique, la boîte de Pandore.
Ah.
Mon histoire, c'est l'histoire de quelqu'un qui change de vie tous les jours sous hypnose, en changeant de personnalité.
Mmh.
Et lui, c'est l'histoire de quelqu'un qui change de vie tous les jours sous hypnose en visitant les vies antérieures.
Incroyable. Incroyable.
Incroyable. Et nos livres sont parus à quelques jours près, au même moment.
Ah.
Et on ne fait absolument pas ni concerté, ni voilà.
Mmh.
Ça, je vous en donne ma parole de
bah, je vous crois. Je vous crois.
Vous voyez, je pense que voilà, on va chercher les informations ailleurs.
Oui. Alors, il y a une chose qui m'a fait sourire parce que j'ai trouvé ça amusant. Je me suis dit, je lui demanderai pourquoi. Le chat s'appelle Al Capone. Bon, alors on est aux États-Unis, on n'est pas à Chicago, on est à New York et au Queens. Vous avez une passion pour cette époque-là. Dites-moi pourquoi Al Capone, ce pauvre chien, vous l'avez affublé.
D'abord, j'ai une passion pour les chats.
Bienvenue au club.
Bon. Et d'ailleurs, il y en a un qui, l'un des deux qui gambade dans le jardin sous mes yeux en ce moment.
D'accord.
Alors, pourquoi Al Capone? parce que c'est un thriller, donc c'est aussi
bah,
plongé dans l'ambiance alors, là, d'une autre époque.
Hein, oui,
comme
bien
chacun
sûr.
Sait, c'est dans les années 20 ou 30.
Oui, oui. C'était hier.
Aux États-Unis, voilà.
Oui.
Mais voilà, c'était évidemment un grand brigand.
Mm.
Et donc c'était rigolo, je trouvais, pour un auteur de polar, parce que
oui,
mon héros est un auteur de polar, d'avoir un chat qui se prénomme Al Capone.
Oui. Il y a un autre personnage aussi dans votre livre, et moi ça m'a interpellée, parce que c'est un lieu que j'aime beaucoup et que j'ai la chance d'avoir de connaître, c'est New York et le Queens. On sent la ville, vous l'absorbez ou elle vous absorbe, je ne sais pas, mais il y a une connexion entre elle et vous.
Oui, complètement. Je connais assez bien New York. Et à travers cette histoire, quand j'écrivais cette histoire, j'étais complètement plongé dedans.
Ah oui,
je l'ai écrite
ça
ici,
sent,
évidemment,
oui.
Le confinement, notamment, je n'avais pas le droit de bouger.
Oui.
Mais j'étais complètement plongé dans mon imaginaire new-yorkais. J'étais sur place, j'avais les sons, les odeurs, et j'ai envie de retranscrire tout ça, quoi, et d'emmener le lecteur avec moi à New York, et notamment dans le Queens.
Mmh. Ça pourrait être un personnage récurrent, votre héros?
C'est une bonne question que je ne me suis pas posée.
Moi, je me suis dit, il pourrait y avoir des aventures comme ça, pourquoi pas.
Écoutez, c'est très amusant, Claudine, parce que vous êtes la deuxième journaliste à faire cette remarque. Et on n'a jamais fait de remarque similaire lors de mes précédents romans. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser. C'est peut-être une de vos intuitions, vous voyez.
Peut-être. Parce que je trouve que le personnage est attachant. Il est auteur de polar, tout ça, donc c'est pas mal. Et puis, il a des facultés, il y a un thème, il y a une thématique, il a une faculté, il y a un chemin. Avec cette histoire du FBI, je me suis dit, ça peut être un personnage, qui nous embarque, hein, parce que, il a une vie somme toute banale, et puis, finalement, il va se rendre compte que finalement, c'est ça aussi dans ce livre qui m'a bouleversée, c'est que, il se découvre lui-même, et il découvre que dehors, finalement, la vie, elle est extraordinaire, pleine de possibilités et d'aventures. C'est ça aussi qui est incroyable.
Oui, parce qu'il croyait avoir une vie banale,
oui.
Et à partir du moment où il a découvert qu'il avait, comme chacun de nous, ce don d'intuition, cette capacité, et bien ça change complètement les choses, et complètement la façon dont il voit la vie, et aussi ce qu'il peut faire de la vie. Et puis bon, je vais pas tout dévoiler,
non,
je
ne
veux pas gâcher le plaisir de lecture, bien sûr, je ne veux pas spoiler l'histoire, mais ça l'invite à voir la vie différemment.
Oui. Et j'ai trouvé que c'était en fait... Outre l'histoire, hein, le suspense qui est très bien fait, très bien tourné, c'est très bien ficelé, et ça nous emmène et on s'attend. Moi, parfois, j'ai fait des hauts et des bas parce que je m'y attendais pas, mais en même temps, je trouve que c'est l'histoire aussi pour ce héros d'une belle aventure intérieure.
Oui, d'une certaine façon, il y a un effet de miroir entre ce qui lui arrive extérieurement et ce qu'il vit intérieurement. D'où le titre du livre, d'ailleurs, parce que intuitio vient du latin,
bien
et ça signifie l'image réfléchie.
L'image réfléchie, oui, tout à fait. Oui. Alors, j'imagine que vous avez dans vos tiroirs, dans vos placards, déjà le prochain livre.
Pas du tout.
Ah bon ?
Pas du tout. J'ai le thème, enfin, je pense que c'est le thème, parce que c'est des choses qui m'habitent depuis quelque temps et j'ai envie d'écrire sur ce thème.
Ouais.
Maintenant, il faut que je trouve l'histoire et là, c'est pas du tout le cas.
Ouais. Enfin, il faut faire vivre intuitio déjà. Déjà, faut faire vivre le livre.
Tout à fait,
déjà.
Tout à fait.
Donc voilà, faut réfléchir à l'histoire prolongée de manière récurrente. Voilà,
je vais y songer, Claudine. C'est l'idée.
En tout cas, c'est un livre fort intéressant. Dernière chose, l'expérience que vous avez eue avec la première expérience de l'intuition que vous avez eue. Est-ce que c'est libre pour tout le monde? Est-ce que chacun peut s'y adonner? Est-ce que chacun peut rencontrer certaines personnes? Est-ce que chacun peut faire ce genre de test? Comment ça se passe?
Oui, tout à fait. Bon, déjà, je décris la méthode assez précisément dans le roman.
Oui.
Maintenant, après, les gens, s'ils veulent aller plus loin, ils peuvent en effet se former. C'est-à-dire, en fait, c'est une méthode qui a été classée secret défense aux États-Unis pendant 30 ou 40 ans. Mm-hmm. Et ça vient d'être déclassifié. En fait, c'est pour ça qu'on y a accès. Mm-hmm. Ça se sait pas encore, mais elle est tout à fait accessible. Et la personne, je cite hein, dans la postface, en fait.
Oui, oui.
Je cite son nom. Donc, après, les gens qui le souhaitent peuvent vraiment aller se former.
C'est pour ça que je vous posais la question. Voilà, comme il y a le nom, est-ce qu'on peut, voilà, est-ce qu'on peut.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi-même, moi, c'était il y a 6 ans qu'il m'a initié. Mais quand 3 ans plus tard, j'ai eu envie d'en faire un roman, je l'ai recontacté. Et puis il a continué la formation. Parce que je souhaitais vraiment maîtriser la chose. Donc, j'ai eu encore 12 journées de formation en tête à tête. Mais on est allé très loin parce que c'est ça qui est incroyable. C'est que par intuition, en fait, on peut non seulement décrire un lieu, un objet, mais aussi découvrir une personne, des émotions. Enfin, en fait, potentiellement, tout est accessible par intuition, ce qui est assez, assez troublant. Mmh.
Eh bien, écoutez, j'ai eu la bonne intuition de vous lire depuis toutes ces années, me disant peut-être qu'un jour j'aurai le plaisir, le bonheur et l'avantage de vous parler. Voilà, c'est fait.
Voilà. Le plaisir est partagé, c'est réciproque.
J'espère qu'il y aura d'autres occasions. En tout cas, sachez que vous êtes un éternel invité à ce micro. Intuition aux éditions Kalman-Lévy, c'était le plaisir de vous recevoir, Laurent Gounelle. Merci infiniment.
Merci.
Prenez soin de vous et à une prochaine fois, j'espère.
Vous de même. Avec
merci.
Toi.
Au revoir.
Au revoir.
Eh bien voilà, eh bien écoutez, j'espère que vous avez eu plaisir pour cette émission. Moi, je suis toujours ravie de vous retrouver, de vous parler de ces auteurs que j'aime et de ces belles lectures. Je vous retrouve une prochaine fois. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Merci de votre fidélité.